catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse du Père Directeur.
Salut fidèles auditeurs de Radio Maria, c'est l'heure de la catéchèse nationale. Comme nous l'avons dit le matin, ce programme national important partirait de l'association de Matadi. Monsieur l'abbé Philibert Mayengele nous propose un thème intéressant pour notre méditation de ce jour dans le cadre de cette catéchèse. Il s'agit de bénédiction, miracle, délivrance. Foi ou illusion. Bonjour, monsieur l'abbé.
Bonjour, Daniel. Bonjour aussi à tous nos auditeurs et bonjour à tous nos bienfaiteurs. Et que la paix du Seigneur soit avec vous.
Merci beaucoup. Les thèmes, nous l'avons dit, bénédiction, miracle, délivrance, foi ou illusion. À tout bout de champ, dans le coin de nos rues, nous parlons de miracles, nous parlons de délivrance, de bénédiction. Monsieur l'abbé, cette catéchèse se présente comme une volonté de, en tant que chrétien catholique, justement, de nous fixer correctement par rapport à ces trois aspects ou trois réalités.
Bénédiction, miracle, délivrance, on en parle aujourd'hui, on en parle partout. Nous vivons dans un contexte où les églises se multiplient, les nuits de prière se prolongent et les promesses abondent. Et partout, Daniel, il y a une question silencieuse qui traverse les consciences. Pourquoi prions-nous autant et changeons-nous si peu? Pourquoi? Les gens prient, mais on ne sent pas un changement dans leur vie. Peut-être que Osée avait raison de dire que mon peuple périt faute de connaissances. Dans Osée 4, verset 6. En fait, la foi, lorsqu'elle n'est pas éclairée, elle peut devenir une émotion sans transformation, une ferveur sans responsabilité, et pourquoi pas une religion sans conversion. C'est cette foi que nous voulons éclairer à travers cette catéchèse, purifier, approfondir, non pour condamner, mais plutôt pour sauver ce qui est essentiel. En tout cas, la quête des miracles, la quête des bénédictions, la quête des délivrances envahit l'opinion générale. Voilà pourquoi il est important d'éclairer tout cela.
Merci. Ceci étant dit, fidèles auditeurs, nous allons invoquer l'Esprit Saint avant la prière d'ouverture. Monsieur l'abbé, vous avez la parole.
Merci Daniel, merci à tous nos auditeurs pour avoir choisi la radio de notre maman, la fréquence bleue. Le philosophe Blaise Pascal écrivait ceci, « L'homme dépasse infiniment l'homme. » En effet, quand l'homme souffre, il cherche plus grand que lui. Mais quand la souffrance dure, eh bien il devient vulnérable aux promesses rapides. C'est le cas en RDC. Bien chers frères et sœurs, chers auditeurs, chers internautes, Dans notre pays, la pauvreté est devenue structurelle. L'injustice s'est banalisée. L'insécurité même quotidienne, c'est chaque jour qu'on vit dans l'insécurité. Et dans ce contexte, la foi risque de devenir un analgésique spirituel et non un chemin du salut. Voilà pourquoi, quand on dit bénédiction, on se pose les questions entre la grâce et la déformation. Dans la Bible, bénir signifie transmettre la vie de Dieu. Déjà dans Genèse chapitre 12, verset 2, on nous dit « Je te bénirai et tu seras une bénédiction ». La bénédiction implique toujours une relation avec Dieu, une responsabilité envers les autres. Saint Irénée de Lyon dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Mais aujourd'hui, la bénédiction est souvent réduite à l'argent, à la réussite sociale, à la protection magique. On peut donner un exemple. Un responsable politique enrichi illicitement, il s'est dit béni. Mais il laisse des hôpitaux sans médicaments. Comment? Tu t'enrichis illicitement et tu appelles ça bénédiction. Entre-temps, les gens souffrent. Entre-temps, les gens ne sont pas bien payés. Entre-temps, les malades sont sans médicaments dans les hôpitaux. Voilà pourquoi dans Proverbes chapitre 15, verset 27, on dit « Les profits mal acquis ruinent la maison ». Chers auditeurs, chers internautes, la bénédiction de Dieu, eh bien, ne construit jamais sur la souffrance d'autrui. Non. La bénédiction veut dire chercher aussi les biens des autres. Lorsque vous avez détourné de l'argent, lorsque vous avez acquis malhonnêtement quelque chose, eh bien, il faut pas appeler ça bénédiction. Il faut pas se mettre à genoux et commencer à dire « Le Seigneur m'a béni pour ça ». Non, ce n'est pas une bénédiction. Deuxième mot, les miracles. Les miracles, c'est en fait un signe, frères et sœurs bien-aimés, qui doit conduire à la foi. Dans l'évangile des Jean, par exemple, les miracles est un signe, séméion en grec. Dans Jean chapitre 2, verset 11, on dit « Jésus manifeste sa gloire et ses disciples crurent en lui ». Saint Augustin lui dit « Le miracle visible est petit face au miracle invisible de la foi ». Mais aujourd'hui, nous vivons une déviation. Quand le miracle devient une fin en soi. Les miracles deviennent un spectacle, un critère de vérité, alors la foi malheureusement devient fragile. Dans Jean chapitre 6, verset 26, nous le voyons. On peut donner un exemple concret. Il y a des fidèles qui quittent une paroi stable pour courir après l'extraordinaire. Malheureusement, il reste spirituellement immature. Non, les miracles, ça doit être un signe qui conduit à la foi. Un signe qui conduit à la foi. Les miracles doivent nous aider à découvrir la grandeur de Dieu. C'est ça. Parce que Jésus a manifesté sa gloire à travers les miracles qu'il a accomplis. Et nous voyons dans Jean que ses disciples crurent en lui. Mais nous, nous allons à la recherche du miracle. Nous voulons à tout prix avoir solution à nos problèmes. On a l'impression que le miracle devient une fin en soi. Et dans beaucoup d'églises, les miracles, on en fait un spectacle. Pour appeler les gens d'ailleurs de venir à la prière, on appelle campagne des miracles et des délivrances, au lieu d'aider d'abord les fidèles à découvrir la foi. Troisième élément, la délivrance. On peut se poser la question, libération ou déresponsabilisation. Dans la Bible, la vraie captivité est intérieure. Origène dit « Les plis durs des esclavages et celui du péché que l'on justifie. » Aujourd'hui, malheureusement, il y a une mauvaise interprétation de tout cela. On attribue toute faute aux démons. On attribue tout problème aux sorciers. On parle des attaques spirituelles. Et tout cela, bien chers frères et sœurs, chers fidèles auditeurs, empêche malheureusement la conversion.
Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Fidèles auditeurs, je rappelle que c'est la catéchèse nationale qui part ce jour de l'association de Matadi avec monsieur l'abbé Philibert Maengele. Une catéchèse autour d'un thème très important, bénédiction, miracle, délivrance, foi ou illusion.
Fikira zangu ninakusie Mungu wangu ni rehemu nisipote nimetanga tanga katika dhambi na kusahau maagizo yako maisha yangu yananishangaza na lanava kama wenye dhambi nimegundua mwokozi wangu ila wewe nitapotea nimegundua mwokozi wangu ila wewe nitapotea nimekukosea Mungu kwa vitendo nazo fikira zangu ninakusie Mungu wangu ni rehemu nisipote nimetanga tanga katika dhambi na kusahau maagizo yako maisha yangu yananishangaza na lanava kama wenye dhambi nimegundua mwokozi wangu bila wewe nitapotea nimegundua mwokozi wangu bila wewe nitapotea.
Voilà, merci beaucoup Virgin Tsakala, bénédiction, miracle, délivrance, foi ou illusion. C'est le thème de la catéchèse de ce jour que nous suivons à partir de Matadi avec M. l'abbé Philibert Maengele. Suivons attentivement pour réagir immédiatement après dans la partie interactive par les 089 10 32 954 089 10 32 954. Monsieur l'abbé, nous revenons à vous.
Merci Daniel, merci à tous nos auditeurs de rester avec nous pour suivre cette catéchèse. Aujourd'hui, nous le savons tous, il y a beaucoup de fidèles qui changent d'église. Je dirais même tous les mois pour chercher des manifestations spectaculaires. Mais malheureusement, il reste spirituellement immature. Dans Luc chapitre 11, verset 29, Jésus dit « Cette génération réclame des signes, des signes. » Chers auditeurs, chers internautes, demandez-vous, est-ce que je cours après les miracles ou est-ce que je cherche à être transformé par Dieu? Ce qui est important, c'est être transformé. Ce n'est pas courir derrière les miracles. Ce n'est pas courir derrière tous ces hommes de Dieu qui font des promesses. Des promesses sur promesses. Voilà pourquoi la vraie délivrance, comme je le disais tantôt, commence à l'intérieur. Dans Jean chapitre 8, verset 36, Jésus dit, « Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Et Origène poursuit en disant « Les plis durs des esclavages est celui du péché que l'on justifie. » Aujourd'hui, nous vivons des dérives. Des dérives, parce que on cherche à attribuer toutes les difficultés à la sorcellerie ou aux esprits mauvais. Tout cela, malheureusement, empêche la conversion et empêche la responsabilité. On peut donner un exemple, un Congolais qui est violent. Il invoque la sorcellerie pour justifier sa colère. Mais il refuse de se repentir ou de réparer le mal qu'il commet. Voilà pourquoi dans Jacques chapitre 1er, versets 14 à 15, nous pouvons lire « Chacun est tenté quand il est attiré par son propre désir. » Chers auditeurs, chers internautes, demandez-vous quelle partie de votre vie a besoin d'être libérée par ma conversion et non par des signes extérieurs. Certains malheurs qui nous arrivent, parfois nous sommes responsables nous-mêmes, mais on va à la recherche des miracles. On ne cherche pas à se convertir. On cherche ce qui est spectaculaire. D'où notre thème aujourd'hui. Bénédiction, miracle, délivrance, foi authentique ou illusion. Est-ce que tout cela nous conduit à la foi ou simplement nous avons des illusions que nous nous faisons? Voilà pourquoi il est important aussi aux hommes de Dieu aujourd'hui de savoir ce que nous dit Saint Pierre dans 1 Pierre chapitre 5 versets 2 à 3. Il dit « Paissez les troupeaux de Dieu, non pour un gain honteux. » Il y a aujourd'hui malheureusement des hommes de Dieu qui cherchent les gains. Ils font la campagne des miracles, la campagne des délivrances. Ils parlent des bénédictions, tout cela pour rechercher les gains. Il y a même des églises où tout cela est tarifié. Les bénédictions sont tarifiées. Il faut payer autant pour avoir telle bénédiction. Tu veux le miracle dans ta vie, tu dois payer autant. Non. Dans Jean chapitre 8, verset 32, Jésus nous dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » En tout cas, aujourd'hui, nos chrétiens, je dirais même le peuple congolais en général aujourd'hui, a besoin de vérité, a besoin de formation. Il a besoin d'une foi responsable et une foi transformatrice. Pas seulement des manifestations spectaculaires, non. Non, non, non. Il faut d'abord annoncer l'évangile. Il faut d'abord former les cœurs des chrétiens. Il faut les amener à la conversion, à la foi authentique. Ce n'est pas parler des miracles. Aujourd'hui, certains ministères se concentrent sur les cris, sur les chutes, sur les signes visibles, mais négligent malheureusement l'enseignement biblique solide. Ils négligent la formation morale et même la croissance spirituelle. Voilà pourquoi dans Jérémie 23, verset 16, nous pouvons lire, « Ils racontent les visions de leur cœur, non ce qui vient de la bouche du Seigneur. » N'est-ce pas cela que nous vivons aujourd'hui? On a besoin aujourd'hui d'une foi authentique, en tout cas pas les illusions. La foi authentique, chers auditeurs, chers internautes, éclaire la conscience, purifie les cœurs et engage la responsabilité. Marc chapitre 8 verset 36 nous dit « Que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? À quoi ça sert ces miracles-là si nous perdons nos âmes ? À quoi ça sert ces miracles-là si ça ne nous amène pas à la foi, une foi authentique ? Pourquoi parler de miracles ? Pourquoi parler de délivrance, de guérison, de bénédiction si nous ne formons pas les chrétiens les chrétiens, les enfants de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. » Il faut le renouvellement de l'esprit aujourd'hui. On ne doit pas suivre ce qui se fait aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, ce qu'on raconte ça et là aujourd'hui. Non. Nous devons chercher à être transformés, transformés de l'intérieur. Nous devons avoir la foi. En tout cas, les vrais miracles pour nos chrétiens aujourd'hui, pour les Congolais aujourd'hui, n'est pas la multiplication des bénédictions visibles, mais plutôt la transformation des cœurs et la transformation des consciences. Il nous faut avoir des chrétiens authentiques, des chrétiens de qualité. Pas ces gens-là qui suivent les miracles. Aujourd'hui, ils sont là, demain, ils changent d'église, après-demain, ils sont chez des féticheurs, et après-demain, ils vont pratiquer les sciences occultes. Non. Cherchons, frères et sœurs, à aller vers la foi. Croyons d'abord en Dieu. Faisons-lui confiance. Et confions tous nos problèmes, toutes nos peines, tous nos fardeaux à Jésus. Comme il est dit lui-même dans Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et moi, je vous procurerai du repos. Bien chers frères et sœurs, chers fidèles auditeurs, chers internautes, laissons donc la foi des émotions et cherchons la foi qui transforme nos vies, la foi qui peut changer notre pays. Que chaque bénédiction, chaque miracle et délivrance nous rapproche de Dieu et nous rende responsables dans notre vie quotidienne. Voilà la grâce que nous allons demander au Seigneur et soyons ces chrétiens qui vivent de la foi et de la foi authentique.
Merci, M. l'abbé Philibert. Chers auditeurs, place à présent à vos questions qui vont devoir trouver des réponses auprès de M. l'abbé Philibert Maïguel, auteur de cette catéchèse, très belle catéchèse, autour du thème bénédiction, miracle, délivrance, foi ou illusion. 089 10 32 954. 089 10 32 954. Nous allons prendre une petite pause avant de vous donner la parole.
Aide-nous, Marie, à mieux prier. Puisqu'aimer peut changer notre histoire, aide-nous à nous réconcilier. Dans le ciel, nous avons une mère. Aide-nous à nous abandonner. Puisqu'aimer, c'est vivre en sa présence. Aide-nous, Marie, à le trouver. Dans le ciel, nous avons...
Voilà, merci beaucoup. Nous allons prendre la toute première question. Monsieur l'abbé, bonjour et merci pour cette catéchèse. Peut-on connaître les miracles sans posséder la foi? Première question. Et la deuxième. Deux fois, nous avons du mal à interpréter les silences des dieux. D'où, malheureusement, certains tombent dans la quête du sensationnel Monsieur l'abbé, le silence de Dieu est-il une forme de bénédiction incomprise? Deux questions de notre frère Arsène Ika de la paroisse Marie-Reine des Apôtres à Kinshasa.
Merci beaucoup à notre frère Ika pour ces deux questions. Et à travers vous, j'ai salué tous les carmes. Naturellement, j'ai salué les confrères prêtres pour leur attention à Radio Maria. D'abord, on ne peut pas connaître Dieu quand on n'a pas la foi. Ça, c'est la première chose. C'est par la foi que nous connaissons Dieu, c'est par la foi que nous croyons en Dieu, et c'est par la foi que nous obtenons toutes les grâces et faveurs dont nous avons besoin. Mais on peut aussi recevoir le miracle, même sans comprendre le sens profond. Parce que dans la Bible, Dieu peut agir, hein, même chez des personnes qui n'ont pas encore la foi. Mais nous savons que il faut la foi pour connaître Dieu. Mais les miracles sans la foi restent souvent, malheureusement, un événement sans conversion. Je crois que c'est cela pratiquement l'objet de notre catéchèse d'aujourd'hui. Il faut la conversion. On doit chercher à se convertir. C'est cela d'abord qui est important. Et le reste, c'est Dieu lui-même qui fait. Dans Jean chapitre 11, verset 47, on dit, même après la résurrection de Lazare, certains ont vu les miracles, malheureusement sans croire. Il y a parfois beaucoup de miracles que Dieu accomplit dans notre vie, mais nous n'arrivons pas à croire. Donc, Jésus veut vraiment nous inviter à cela. Dans Matthieu chapitre 7, par exemple, verset 22, il dit, « N'avons-nous pas prophétisé à ton nom ?» Donc, il y en a qui ont prophétisé, il y en a qui ont accompli les miracles au nom de Jésus, mais malheureusement, ils n'ont pas adhéré à la foi. Ils se sont limités aux signes extraordinaires, les signes extérieurs. En tout cas, les miracles n'est pas la foi. Mais la foi donne sens aux miracles. Voilà pourquoi je disais tantôt que les miracles doivent nous conduire à la foi. Sans la foi, mon ami Arsène, on s'émerveille simplement, hein, on raconte, on s'attache aux faits, ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, et il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de changement. Mais quand on a la foi, ces miracles-là vous conduisent à Dieu, ces miracles-là fortifient votre espérance, votre confiance en Dieu. Et naturellement, ces miracles-là appellent à une vie nouvelle. Alors, pourquoi avons-nous du mal à interpréter les silences de Dieu? Bon, peut-être que si j'ai bien compris votre question, comment on peut comprendre les silences de Dieu? Parce que nous confondons souvent silence de Dieu avec son absence. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, nous voulons des réponses rapides. Nous voulons des solutions immédiates. Nous voulons des signes visibles. Voilà pourquoi les gens changent même d'église. Ils sont incapables de laisser Dieu répondre à nos requêtes, à nos prières. Nous sommes incapables de comprendre ces silences-là de Dieu. Pourtant, Dieu travaille souvent en profondeur. Il travaille dans les temps. Dans la Bible, nous les voyons. Hein, mes pensées ne sont pas vos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et donc, quand Dieu ne parle pas comme on l'attend, on pense qu'il ne parle pas du tout. Ou bien on pense qu'il n'agit pas. Ou on pense que Dieu n'écoute pas. Non, c'est faux. Dieu écoute. Quand vous avez prié, laissez Dieu agir. Donc, pour moi, le silence de Dieu, ce n'est pas un abandon, mais c'est souvent peut-être un temps d'épreuve, un temps de purification de la foi, un temps où Dieu cherche peut-être à agir autrement dans sa vie. Bon, dans beaucoup de circonstances de notre vie, bon, Dieu s'était parfois, il s'était pour nous apprendre tout simplement à lui faire confiance. Il s'était parfois pour nous faire grandir. Il s'était parfois pour nous détacher des signes faciles. Donc, bref, l'invitation que je peux adresser à nos auditeurs et à tous ceux qui ont du mal à interpréter les silences de Dieu, c'est de persévérer dans la prière. Et puis, relire sa vie. Pas seulement les problèmes, mais sa vie. Hein? Il faut voir parfois votre responsabilité est engagée. Et enfin, faire confiance. Même sans comprendre, il faut faire confiance en Dieu. Voilà ce que je peux répondre à notre frère Arsène, à qui je dis merci pour ces questions.
Merci. Nous allons prendre une autre question. Bonjour Radio Maria Matadi, merci beaucoup pour votre catéchèse. Voici mes questions. Quelle est la différence entre la bénédiction du prêtre et la bénédiction de parents? Est-ce que c'est la même chose? Deuxièmement, comment éviter la malédiction? Comment éviter la malédiction qui est l'opposé d'une bénédiction? Et les deux questions sont de notre frère Elie Bouzito.
Alors, merci beaucoup à notre frère Bouzito pour ces deux questions. Et je vous salue cordialement et meilleurs vœux. D'abord, bénédiction veut dire dire du bien, vouloir le bien. Donc, qu'il s'agisse du prêtre ou des parents, quand ils prononcent les paroles de bénédiction, c'est pour demander du bien pour cette personne-là. Hein? Dire du bien, c'est ce que veut dire le mot bénédiction. Et puis, le rapprocher de Dieu. Bon, peut-être s'il faut parler de la différence, c'est que le prêtre, quand il bénit au nom de l'Église. Il bénit au nom du Christ. Ce n'est pas sa personne qui agit, mais c'est le ministère qu'il a reçu. C'est en fonction de ce ministère-là que le prêtre agit, que le prêtre bénit. Et le prêtre, donc, a reçu de Dieu ce pouvoir-là de bénir les peuples de Dieu en son nom, en vertu de l'ordination. Voilà pourquoi, dans Nombre, chapitre 6, verset 22, Dieu lui-même demandait à Aaron, au prêtre, comment ils doivent bénir. Dieu lui-même demandait au prêtre de bénir son peuple. Donc c'est un pouvoir que Dieu lui-même confie au prêtre. Alors la bénédiction du prêtre aussi invoque officiellement la grâce de Dieu. Sanctifie les personnes, les lieux ou les objets, et puis agit par l'autorité spirituelle qui lui est confiée par l'Église. Donc, quand un prêtre accomplit son ministère, quand un prêtre bénit, c'est toute l'Église qui prie avec lui à partir de l'autorité ou du pouvoir qu'il a reçu. Tandis que la bénédiction des parents, vient de leur mission naturelle et spirituelle. Passons des géniteurs. Il y a un des commandements qui dit « Honore ton père et ta mère ». Il faut les honorer. Donc, en vertu de ces pouvoirs naturels, cette mission naturelle qu'ils ont reçue de Dieu, alors les parents peuvent donc bénir. Dans l'Ancien Testament, nous savons par exemple que Isaac a béni Jacob. Il a béni son fils. Donc la bénédiction des parents transmet la vie, la protection, l'encouragement. La bénédiction des parents demande du bien de l'enfant pour ce qu'il fait, pour son avenir. Et aussi, quand un parent bénit son enfant, ou les parents bénissent les enfants, c'est par amour. C'est par amour parce qu'ils veulent du bien pour leur fils. Mais retenons simplement que les deux bénédictions ne s'opposent pas. Elles se complètent parce que on cherche du bien. On veut rapprocher cette personne-là de Dieu. Alors, comment éviter la malédiction qui est naturellement opposée à la bénédiction? Mais je crois que d'abord, il faut comprendre ce qu'on entend par malédiction. La malédiction naît souvent des paroles négatives répétées. Donc, si c'est la bénédiction veut dire du bien, prononcer des paroles bénéfiques, la malédiction maintenant veut dire prononcer des paroles maléfiques, des paroles négatives. La malédiction peut aussi provenir de certains sentiments qu'on s'est fait, sentiments de colère, l'insulte, des rejets, l'injustice et l'absence de pardon. Donc, la malédiction peut provenir de tout cela. Alors, pour éviter la malédiction, d'abord, il faut bannir les paroles maléfiques ou les paroles destructrices, si vous voulez. Il ne faut pas, par exemple, dire, un papa qui dit à son enfant, tu ne réussiras jamais dans ta vie. Un papa ne peut pas insulter son enfant. Il y a des mamans, par exemple, qui ont l'exemple d'injurier leurs enfants avec de mauvaises paroles. Tu es inutile. Je regrette pourquoi j'étais comme enfant. Non. Quand on dit des choses comme, quand on bannit ça, ça veut dire que vous êtes en train de protéger votre enfant. Et il faut pratiquer quotidiennement la bénédiction, c'est-à-dire dire du bien, avoir de bonnes pensées sur les enfants, sur les parents, sur les amis. Bref, il faut être habité par l'Esprit Saint. Et il faut toujours demander pardon quand on sait qu'on a blessé quelqu'un. Donc, dans une famille, quand on cultive tout cela, on peut éviter la malédiction. Et puis, comment on peut éviter encore la malédiction ou éviter une parole négative, c'est il faut simplement se convertir, changer, demander pardon, bénir à la place de maudire et confier tout ce que vous en direz comme situation à Dieu. Quelque part, je crois, dans la Bible, on dit il faut bénir, mais il ne faut pas maudire. Donc, bénissez et ne maudissez pas, parce que le Christ lui-même nous a rachetés de la malédiction. Voilà ce que je peux dire à notre frère Elie Bouzito. Merci pour ces deux questions.
Merci, M. Labbé. Nous allons prendre cette note vocale.
Bonjour, M. Labbé. Bonjour, tonton Daniel. Merci, M. Labbé, pour cette catéchèse. C'est vraiment enrichissant. Mon inquiétude, c'est concernant les miracles dont vous parlez, par rapport à l'Église, parce qu'aujourd'hui, même chez nous, on a suivi on a suivi l'enseignement sur la sainteté. Pourquoi alors l'Église demande la sainteté? Et pour confirmer quelqu'un saint, on demande qu'il soit, qu'il fasse des miracles.
Voilà. C'est la question de Madame Paola Mueloa à la paroisse Reine des Apôtres en Lubumbashi.
Merci beaucoup à Madame Paola qui nous appelle depuis Lubumbashi. Et à travers elle, je salue tous les auditeurs de Lubumbashi. Je salue le Père Abedi, le directeur de la Radio Maria Lubumbashi. Et je salue Maman Présidente, je salue tout le monde. Meilleurs vœux à vous. Alors, ici, je crois que vous voulez faire allusion à la canonisation des saints. Donc, il y a des critères. Il y a des critères. Pour que quelqu'un soit canonisé, l'Église exige des miracles. C'est-à-dire ce qu'on appelle des signes, justement, qui conduisent à la foi. Mais l'Église n'invite pas les gens à la recherche des miracles. Non. Non. Quand vous avez, par exemple, un problème, vous avez invoqué Dieu par l'intercession d'un saint. Vous demandez cette grâce à Dieu par l'intercession d'un saint. Et que, ou bien par l'intercession, pour le moment nous avons des bienheureux, l'intercession des bienheureux, eh bien, si le Seigneur, si le Seigneur répond à votre demande, eh bien, vous pouvez le signifier que j'ai reçu le miracle de Dieu par l'intercession du bienheureux tel. Ça, c'est par rapport à la procédure, aux critères pour parvenir à la canonisation. Mais l'Église ne cherche pas les miracles pour les spectacles, non. Mais pour reconnaître simplement l'action de Dieu. C'est cela qui est important. Pour connaître que ce bienheureux que nous invoquons, voyez, il est vraiment proche de Dieu et Dieu agit à travers sa prière. Donc, dans l'Église, les miracles n'est jamais séparé de la foi, de la conversion ou de la charité. Les miracles dans l'Église confirment la foi, confirment l'action de Dieu. Voilà pourquoi, pour canoniser un saint, l'Église demande qu'il y ait des miracles, c'est-à-dire une action de Dieu, pour confirmer cette canonisation que l'Église peut accorder à un bienheureux, par exemple. Alors, donc, si l'Église insiste sur la sainteté, parce que le but de la vie chrétienne n'est pas les miracles, mais la vie de sainteté, la vie de foi. Dans Matthieu chapitre 5, verset 48, qu'est-ce que le Seigneur dit? Soyez parfaits. C'est ça la sainteté. Comme votre Père céleste est parfait. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons toujours chercher à nous convertir, vivre dans la sainteté, parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais les miracles, comme nous les savons, comme je le disais, ça peut vous impressionner, mais ça ne vous conduit pas à la foi. On peut se limiter au signe visible quand on se met à la remorque de tous ces gens qui font des miracles. Non. Mais la sainteté, quand vous avez reçu l'évangile dans votre cœur, l'évangile peut vous transformer et vous devenez un homme nouveau. Donc voilà ce que je peux dire à notre frère, à notre sœur Paola. En tout cas, la sainteté, c'est une réponse de l'action de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi, avant de canoniser quelqu'un, l'Église se rassure si effectivement Dieu agit à travers les prières de ses bienheureux. Merci beaucoup.
Merci.
Bonjour, mon frère Daniel. Bonjour, monsieur l'abbé. Merci beaucoup pour cette très belle catéchèse. Hein. La thématique est tellement importante parce que vous dites bénédiction, miracle, délivrance, foi ou illusion. Voici ma première question. Mais, monsieur l'abbé, les miracles, nous en avons quand même besoin du jour au jour. Mais que dire alors de la foi? Que dire de la foi de ceux qui croient sans avoir vu, comme le valorise Jésus? Et pourtant, de l'autre côté, Saint Paul dit la foi sans œuvre, je dirais même la foi sans les signes, est une foi morte, monsieur l'abbé. On va continuer à croire seulement, à croire, la foi grandissante, mais on ne voit rien, on ne voit aucun miracle. Comment concevoir ça? Et ma deuxième question, la bénédiction que vous évoquez est une faveur continue ou une simple absence de malheur? Je prends l'exemple de Job qui était dans l'abondance parce que béni par le Seigneur. Et du coup, il se retrouve pauvre plus que la pauvreté elle-même. Et c'est pour autant que la bénédiction l'avait quitté. Parce que il faut que nous puissions bien comprendre. Est-ce que l'absence de biens matériels, de l'abondance matérielle, est un signe qu'on n'est pas béni par le Seigneur? Et pour finir, c'est une grande bénédiction d'accueillir déjà dans nos murs, au sein de du siège de Radio Maria, El Kishasa, les reliques de Sainte Faustine au siège de Radio Maria. Et c'est pour autant que la vénération de ces reliques-là ou même du tableau de Jésus miséricordieux va produire automatiquement des miracles et délivrances dans nos vies. Dès lors que Jésus lui-même dit à propos de son tableau peint que, je cite, « Ce n'est ni dans les mélanges de couleurs, ni dans les coups de pinceau pour reproduire ma face que réside le miracle, mais c'est plutôt dans la grâce. » D'abord, pour le moment, je m'arrête là, monsieur.
Merci beaucoup. Hein. Merci à Joseph Desmarie pour toutes ces questions. Je vais rapidement répondre à travers lui. Je salue naturellement tous les auditeurs de notre siège, le personnel de la radio, le Père Roger, tout le monde. Oui, les miracles sont utiles dans notre vie. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour la foi de ceux qui croient sans avoir vu? Je crois. Oui, les miracles, Joseph Desmarie, peut aider la foi. Surtout quand l'homme est faible. Mais ici, n'oublions pas que c'est Jésus qui le dit, hein, heureux ceux qui croient sans avoir vu. La foi, la plus mûre, n'est pas celle qui dépend des miracles, mais c'est plutôt celle qui fait confiance à la parole de Dieu, même dans les épreuves. Croire après avoir vu Joseph Desmarie, ça c'est humain. Ça c'est vraiment humain. Croire sans avoir vu, c'est aussi spirituellement plus profond. Il y a donc ces deux aspects-là. Dieu se réjouit davantage d'un cœur fidèle que d'un cœur impressionné. Donc, ce que nous devons rechercher, c'est quoi? C'est que tu n'as pas la foi, tu vois, et ce que tu vois doit te conduire à la foi. C'est cela. Il ne faut pas se limiter seulement à ce qui vous impressionne. Non. Donc, quand vous avez vu, en ce moment-là, ce que vous avez vu peut vous conduire à comprendre, à découvrir l'action de Dieu dans votre vie. Et cela peut produire la foi. Voilà ce qui est important. On ne doit pas se limiter simplement au miracle. Parce que l'Église ne prêche pas les miracles. Mais les miracles doivent nous conduire à la foi. Les miracles doivent nous aider à découvrir l'action de Dieu dans notre vie. Bon, la bénédiction, faveur continue ou simple faveur, si j'ai bien compris, ponctuelle. La bénédiction, Joseph Desmarie, n'est pas comme quelque chose qui arrive comme un coup de baguette magique. Non. C'est un peu différent d'ailleurs de la magie. Ce n'est pas seulement de l'argent reçu, ou bien un travail trouvé, ou bien une guérison partagée, qui peut dire bénédiction. Pas seulement cela. La bénédiction biblique, c'est une faveur continue. Ce que j'appelle, moi, une relation durable avec Dieu. Ce n'est pas que parce que j'ai reçu l'argent aujourd'hui, le Seigneur me bénit. Et demain, quand je n'en ai pas, le Seigneur ne me bénit pas. Non. La bénédiction, c'est l'action de Dieu dans notre vie. Et cette relation avec Dieu, normalement, elle doit devenir une relation durable. Voyez ? Ce n'est pas une simple faveur, parce qu'une simple faveur, ça peut passer. Elle est ponctuelle, ça passe. Mais une vraie bénédiction porte du fruit dans les temps. C'est pour toute la vie. C'est comme quand on a béni quelque chose, quand un prêtre bénit quelque chose, c'est pour toujours. Ça n'a pas un moment déterminé, c'est pour toujours. Et donc, l'absence des biens matériels, c'est ce que vous voulez aussi savoir, est-elle un signe qu'on n'est pas béni? Mais non, absolument non. Hein? Jésus lui-même n'avait pas de richesses matérielles. La Bible dit, il n'avait même pas où poser sa tête. Vous voyez? Et dans les béatitudes, quand Jésus dit, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Donc, la pauvreté matérielle n'est pas un signe de malédiction. Et la richesse non plus n'est pas une preuve de bénédiction. Donc la vraie question n'est pas par rapport à ce que j'ai et ce que je n'ai pas, mais la vraie question c'est que comment je vis ma relation avec Dieu par rapport à la situation qui est la mienne. J'ai des richesses, je suis pauvre, mais comment je vis ma relation avec Dieu? Donc, c'est ce qui est important. Même quand on est riche, même quand on est pauvre, Dieu peut nous bénir, chacun dans sa condition de vie. Alors la présence des reliques, la présence des reliques qui arriveront au siège de Radio Maria, les reliques de Sainte Faustine, est-ce qu'ils donnent-ils automatiquement la grâce? Non, pas automatiquement. Non, parce que les reliques, ce n'est pas des objets magiques. Non. Dieu, je sais, peut agir à travers des signes matériels, mais c'est toujours lui qui donne la grâce. Ce n'est pas l'objet. Dieu peut agir. Ou bien, quand vous n'y croyez pas, quand vous négligez ce bien matériel-là, eh bien, vous pouvez rater cette grâce-là. Donc, il faut y aller avec foi. Question peut-être de savoir à quoi servent finalement les reliques. Les reliques, Joseph de Marie, rappellent simplement une vie sainte. Ça nous rappelle toutes les vertus de la sainte Faustine. Mais aussi, les reliques peuvent stimuler la foi et naturellement nous inviter à prier Dieu avec confiance. Donc retenons simplement que la grâce vient de Dieu. Et les reliques, comme les reliques qui vont arriver au siège de Radio Maria, doivent nous aider à grandir dans la foi. Parce que la foi ouvre naturellement, je crois, le cœur à la grâce de Dieu. Et puis, ces reliques-là vont nous aider à revoir, à relire les vertus qui ont caractérisé la vie de la sainte Faustine. Donc, la vraie grâce de sa présence, ce n'est pas l'objet visible qu'on verra, mais essayons comme elle de vivre la miséricorde, c'est-à-dire faire confiance en Dieu, se repentir, savoir pardonner, et puis il faut aimer, faire confiance en Jésus. Voilà c'est à quoi cela doit nous amener. Merci beaucoup à Joseph Desmarais.
Merci beaucoup, monsieur l'abbé, fidèles auditeurs. C'est cette note que nous allons terminer cette catéchèse nationale. Avec vous, nous allons dire merci à M. l'abbé Philbert Maïngélé et avec lui aussi. Nous vous remercions de votre fidélité. Merci à Virginie Chaka qui était de l'autre côté de la technique. Merci, au revoir.
Si nous sommes arrivés chez vous, c'est grâce à vos dons. Veuillez continuer à soutenir Radio Maria, aidant la Vierge Marie à nous aider.
Soki linakalie lisepelisibino, ezali pona libunza na bino. Tokoba kusunga Radio Maria. Radio Maria, Radio Nanga, Radio Yayo, Radio Yabiso Banso.